Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I rob stagecoaches.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à quelques classiques cinématographiques, mais aussi avec quelques digressions et quelques films réalisés par des réalisateurs dits classiques. Alors, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, quelques longs métrages édités par Carlotta Film. Carlotta Film qui nous permet de découvrir un western canadien atypique, The Grey Fox, de Philippe Borsos. Carlotta Film qui sort également Ironweed d'Hector Babenco. Nous irons également faire un tour du côté de chez Rimini Édition afin d'évoquer Milliardaire pour un jour, le dernier film de Frank Capra. Le pachyderme sera aussi de la partie avec quelques sorties estampillées éléphants de film, à savoir Sentimentalement Vôtre de Carol Reed, Millie de George Roy Hill, Mary Stuart, Reine d'Écosse de Charles Jarrett, La route semée d'étoiles de Léo McCarey, Gouverneur malgré lui de Preston Sturges et Ma vache et moi de Buster Keaton. Enfin, nous terminerons par quelques raretés éditées par Artus Film, La ville dorée de Veit Harlan et La fille au vautour de Hans Steinhoff. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Jérémy Coiffman, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, évidemment, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer classique, j'ai à mes côtés dans ce studio deux chroniqueurs infatigables, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Gégé et bien évidemment salut à toutes.
Débutons cette émission par des premiers films de réalisateurs émérites et commençons par un des premiers longs-métrages de Buster Keaton, qui avait fait quand même pas mal de courts-métrages avant, hein, mais un des premiers longs-métrages de Buster Keaton qui vient juste après Sherlock Junior en 1924, La croisière du navigateur également en 1924, Les fiancés en folie de 1925. Juste après, en 1925, il nous signe donc Ma vache et moi, qui est son quatrième long métrage, qui est signé dans ce qui est sans doute sa meilleure période, puisque juste après, il fera Le dernier round, Le mécano de la générale, ça c'est ce qu'il fera en 1926, et Sportif par amour en 1927, que des films dont on a déjà causé dans l'émission de toute façon sur les précédentes saisons. Là, on va parler de Ma vache et moi, donc qui est un film de 1925 qui sort chez Elephant Film. Ma vache et moi qui raconte l'histoire de Friendless, donc sans amis, hein, voilà, qui est un vagabond qui cherche la fortune et qui, va se référer à une statue d'Horace Greeley qui lui offre des opportunités, tout du moins dans ce qui est écrit au pied de cette statue. « Go West, young man, go West ». Et donc, il va aller à l'Ouest et il va se retrouver dans un ranch où il va se lier d'amitié avec une vache. Hein, il va essayer de la sauver d'une mort certaine, hein, puisque le fermier n'élève pas sa vache pour la garder à vie avec lui, hein, voilà. Mon cher Damien, ça donne un film un peu particulier parce que c'est un film comique avec un héros qui ne sourit jamais, en fin de compte.
Oui, tu as raison, Jérôme, c'est une bonne définition de ce personnage. Donc, on a affaire à Buster Keaton, un film muet d'une petite heure. Bien sympathique, avec du coup ce personnage à la fois naïf et astucieux qui va tout faire pour protéger cette vache avec laquelle il s'est lié étrangement d'amitié, allant jusqu'à la cacher lors du marquage des bêtes, la cacher et lui créer une fausse marquage. Alors on trouve des éléments habituels de Buster Keaton, en soi c'est de la comédie. On y retrouve des cascades avec des animaux mais aussi des véhicules. On peut voir notamment monter sur un train lors d'une attaque ou même parfois changer le point de vue de la caméra, notamment avec, ça se voit visiblement, mais un faux bœuf sur lequel ils ont passé une caméra qui charge pour justement avoir ce visuel de l'attaque de l'animal. Ce qui est assez sympa en fait d'avoir ces plancements de caméra mis autrement, en fait avoir des effets de réel et de vrai alors qu'on est une époque full CGI, ça fait du bien, ça crée quand même une bouffée d'air. J'aime beaucoup la fin du film, je trouve c'est le truc qui concentre le plus l'entièreté de tout ce qui est comique à la fois épique avec ces centaines de taureaux dans la ville qui se retrouvent dans différents commerces et Buster Keaton qui est un peu à l'origine de cette pagaille qui en devient directement le héros.
En termes de mise en scène, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on est au mi-temps des années 20. À la fin, il y a un très long plan séquence avec un travelling latéral très impressionnant quand il est déguisé en diable rouge et qu'il est poursuivi par des centaines et des centaines de taureaux. En plus, ça rigole pas, c'est des vrais, comme tu le dis, c'est pas des taureaux en CGI, il a vraiment les taureaux aux fesses et il est habillé en diable rouge, voilà. C'est un film aussi, enfin qui démontre que Keaton, c'est un vrai bon metteur en scène. Sa manière aussi d'utiliser les plans larges, les ouvertures, même les cartons, comment il les utilise, c'est fait très intelligemment. En plus, ce final, il fait écho à d'autres scènes. À un moment, on le voit marcher dans la ville, il est ballotté entre les êtres humains. Il y a une vraie construction très intelligente. Et puis, c'est un film étonnamment mélancolique. C'est-à-dire qu'on est à une époque où le gag était lié aussi au côté slapstick, au côté rapide, au côté très énergique et aussi à un aspect visuel très important. Et là, on est dans quelque chose de très mélancolique avec ce personnage principal triste. En fin de compte, le comique, c'est surtout vers la fin, quoi. Sinon, il y a des moments comiques, évidemment, la manière dont il récupère ses fringues, évidemment, on est dans du Buster Keaton. Mais pour moi, je trouve que c'est un film un peu à part par rapport à tous les autres films que j'ai cités en ouverture de cette chronique, qui est un film un peu plus mélancolique que les autres films de Buster Keaton, même si Buster Keaton a toujours un peu travaillé ce personnage de clown triste, de Pierrot lunaire comme ça, un peu perdu au milieu d'un monde qui n'est pas le sien. Je vais enchaîner avec un autre film disponible chez Elephant Film qui est Gouverneur malgré lui de Preston Sturges qui est sorti en 40. Sturges, c'est pas n'importe qui parce que c'est celui qui fera par exemple l'année suivante Un cœur pris au piège, The Lady Eve, qui est un film assez avant-gardiste parce qu'il traite de la guerre des sexes et du monde de la finance autour de Barbara Stanwyck et Henry Fonda, et c'est un film très très en avance sur son époque lorsqu'il a été fait en 41. Donc là on est en 40 et le film débute par un carton qui est un tout petit peu mensonger, hein, et nous dit c'est l'histoire de deux hommes qui se rencontrent dans une république bananière. Le premier fut honnête toute sa vie sauf durant une minute de folie. Le second fut malhonnête toute sa vie sauf durant une minute de folie. Tous deux durent quitter le pays. Bon, en fait, on est surtout là pour parler d'un des deux protagonistes qui a été honnête durant une minute de folie. Voilà. On parle en fait d'un certain Dan McGuinty qui est campé par Brian Dunleavy, qui est en fait un clochard assez malin, assez débrouillard, qui va aider des hommes politiques qui fricotent avec la mafia à gagner des élections en truquant les élections. Il va du coup être repéré, il va entrer en politique, il va gravir les échelons jusqu'à devenir gouverneur. Et c'est quand il va devenir gouverneur qu'une rencontre va l'amener, bien sûr il y a une histoire d'amour là-dessous, hein, va l'amener à devenir soudainement incorruptible. Et ça va évidemment être le début de la fin pour lui, parce que le message du film, c'est tant qu'il était malhonnête, il eut une belle vie. Et dès qu'il s'est décidé à devenir honnête, c'est un peu devenu la merde. Voilà. Donc, le film est très intéressant, même s'il est très écrit, ce qui fait qu'il a, il porte un peu la marque de son époque. Mais le film, à un moment, bascule dans une deuxième partie un peu mélo qui m'intéresse moins. D'autant plus que Sturgis, c'est pas Capra. Mais tant mieux si c'est pas Capra, parce que du coup, il essaye vite d'éviter l'écueil du mélo. Il comprend assez rapidement que c'est pas son univers. Et il préfère se réfugier dans cet humour, dans cet humour assez, assez, comment dire, assez corrosif, hein, voilà, où il nous donne une vision de la société quand même assez peu reluisante. Et il va justement à l'encontre de ce que peut décrire un Capra dans ses films. On n'est pas sur Mr. Smith au Sénat avec James Stewart, là, on est sur un monde décrit qui est le monde de la politique, le monde de la mafia, qui ont des interdépendances et qui est un monde, le monde du tous pourri. Alors on peut dire que c'est un peu caricatural, mais bon, on est en 40 quand même, quoi. Donc, puis c'est peut-être pas le message qu'avait envie d'entendre le monde à cette époque-là. Donc c'est un film qui va un peu à contre-courant. We think he's chic, unique, and quite adorable. They think he's odd and sodden and gomorable. But the fact is, everything today is thoroughly modern. Check your personality, everything today makes yesterday slow. Better face reality, it's not insanity, says Vanity Fair. In fact, it's stylish to raise your skirts and bob your hair. Vous écoutez Culture Prune. So cozy. If the boy is kissable and that tango dance they wouldn't allow. Now is quite permissible. Goodbye, good goody girl. I'm changing and how. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Millie is thoroughly modern. Bands are getting jazzier. Everything today is starting to go. Cars are getting snazzier. Men say it's criminal what women'll do. What they're forgetting is this is 1922. Have you seen the way they kiss in the movies? Isn't it delectable? Painting lips and pencil lining your brow. Now is quite respectable. Goodbye, good goody girl. I'm changing and how. So Autre film d'un autre réalisateur, plus récent celui-ci, un film de 67 de George Roy Hill, mais c'est aussi un de ses premiers films, hein, c'est son cinquième film, hein, et c'est le film qui intervient au moment où, comment dire, la carrière de George Roy Hill n'a pas encore basculé dans un succès à la fois critique et public, ce qui va lui arriver juste après ce film, donc ce film de 67 qui s'appelle Millie. Et juste après Millie, en 69, il va faire Butch Cassidy et le Kid, en 72, Abattoir 5, en 73, L'Arnaque, quand même 7 Oscars, hein. La Kermesse des Aigles en 74, La Castagne, film sous-estimé en 77, Le Monde selon Garp en 82, donc... Sacrée carrière, comme l'explique d'ailleurs Samuel Blumenfeld dans les bonus de ce Blu-ray et DVD édité par Elephant Film. Et si Millie intéressant George Roy Hill, c'est parce qu'il peut y tourner une reconstitution des années 20 et il prouvera quelques années plus tard avec Abattoir 5 qu'il aime bien tourner des reconstitutions assez fastueuses. C'est aussi parce qu'il est un ex-pilote qui officia entre autres lors de la guerre de Corée. Et là, dans ce film-là, il peut tourner une séquence d'aviation qui du coup prend un autre sens. Et enfin, ce qui est peu connu, c'est que George Roy Hill est un musicien émérite qui a suivi un cursus scolaire qui le destinait plutôt à devenir soliste, en fait. D'où son grand plaisir à tourner une comédie musicale qui met Julie Andrews en vedette dans le rôle titre, Julie Andrews, donc, qui est Millie, une jeune femme qui décide de s'installer en ville pour changer de vie, parce qu'elle se trouve un peu vieux jeu, voilà. Elle ne s'aime pas beaucoup, voilà. Et elle décide d'avoir un objectif très, comment dire, très ambitieux, c'est-à-dire de devenir secrétaire et d'épouser son patron. Mais, elle se lie d'amitié avec une jeune comédienne qui va lui ravir son amoureux. Et à partir de là, va se dérouler un film qui, mon cher Damien, parce que c'est Damien notre fan de comédie musicale, vous le savez maintenant si vous suivez régulièrement l'émission, parce que Damien veut souvent et a réussi à me convertir. On a fait plusieurs émissions de Culture Prohibée sur la comédie musicale durant cette saison, on en a fait deux très exactement. Et là, Damien, qu'as-tu pensé de cette comédie musicale qui, quand même, a été très appréciée lors de sa sortie, puisque c'est l'Oscar 68 de la meilleure musique originale pour Elmer Bernstein. Et au Golden Globe, c'est meilleure actrice dans un second rôle pour Carol Channing. Donc c'est quand même un film, même s'il est un peu oublié, de George Roy Hill, c'est un film qui a marqué son époque.
Alors, Millie, c'est un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, mais le truc le plus drôle, c'est que les musiques, je trouve qu'elles sont pas top en soi, mais j'aime beaucoup l'univers, tout le comique qu'il y a autour, notamment justement le fait que le film se passe en 1922, que ça s'ouvre sur une chanson de Millie qui veut être une femme moderne, et c'est pas moderne comme aujourd'hui, c'est moderne comme contrairement aux femmes d'avant-guerre. Et la scène d'introduction, c'est justement une chanson où elle parle de sa transformation, où au final elle se retrouve dans un conformisme de modernité où il faut avoir les cheveux courts, il faut qu'on porte le même style de robe, il faut qu'on ait quasiment le même collier qui pend, et la femme moderne très importante à la poitrine plate, ce qui reviendra à 2-3 reprises dans le film et qui est un détail assez bizarre au final. Mais le côté comédie est géniale parce que les éléments du film, je les trouve mélangés entre stupides et brillants et j'arrive pas à me décider. Par exemple, un truc tout bête qui revient, qui est une comique de répétition qu'on a à l'intérieur du film, c'est Millie et sa copine Dorothy sont dans un hôtel pour jeunes femmes, sauf que l'ascenseur a du mal à fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes qui prenaient l'ascenseur étaient dans des danseuses, du coup elles répétaient leur numéro dans l'ascenseur, ce qui a fini par le casser, et le seul moyen de faire fonctionner l'ascenseur quand on le prend, c'est de danser à l'intérieur. Ce qui fait que la première scène de rencontre entre Millie et Dorothy, enfin, elles commencent à discuter ensemble, mais quand elles prennent l'ascenseur, on a toute une scène de danse avec le fait que l'ascenseur ne peut monter qu'avec leur danse. Ce qui crée en même temps un lien et un apogée indirectement dans leur amitié. Et c'est un truc qui devient aussi stupide que drôle au fur et à mesure du film, parce que cet hôtel a la particularité négative, en fait, de kidnapper ces jeunes clientes qui sont détachées de tout le monde pour ensuite aller les revendre. On a littéralement une affaire de traite des blanches, mais en sous-texte dans une comédie. Hôtel tenu par une chinoise, d'après ce que j'ai compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand la personne est kidnappée, ils l'emmènent dans l'ascenseur et les kidnappeurs sont également obligés de danser pour faire descendre l'ascenseur. Et tout ce comique à la fois stupide et brillant. Je l'adore, c'est un film extrêmement coloré avec une ambiance très cool et les péripéties s'enchaînent au fur et à mesure et elles sont toutes aussi virevoltantes qu'incroyables. Par exemple, Jérôme, comme tu l'as dit, on a une scène d'avion, mais la scène d'avion est introduite par Jimmy, un jeune extravagant qui drague un peu Millie et qui l'aime, sauf que Millie ne veut pas sortir avec lui parce qu'elle, elle veut devenir secrétaire et épouser son patron, parce que c'est ce que font les femmes modernes dans en 1920, dans ce film, et il lui propose d'aller à une fête. Il demande est-ce que sa copine Dorothy est disponible. Elle répond que oui, et la scène suivante qu'on attend, c'est E3 à scène de bal ou E3 en voiture pour aller à scène de bal. Mais la scène suivante qu'on a, c'est E3 dans un avion. Ce que je ne comprends pas, jusqu'à ce qu'on découvre que pour aller à ce bal, en fait, il y a possibilité de prendre un avion pour atterrir à côté d'une grande demeure qui est l'endroit où il y a la fête. Ce film, il est vraiment incroyable. Il est drôle, il est vraiment coloré et joyeux. Et Julie Andrews est incroyable. Il y a un truc au niveau du montage aussi que j'aime beaucoup, c'est que lorsqu'elle veut exprimer sa pensée ou ses émotions, elle le fait par deux moyens. Soit elle le fait en chanson, ce qui nous introduit dès le début du film, soit elle le fait par des cartons qu'on retrouvait un peu dans les tout premiers films pour nous expliquer la situation. Ce qui fait qu'il y a à plusieurs moments, elle fait des regards caméra qui, avec mon regard aujourd'hui, me fait penser beaucoup à Fleabag, qui m'a énormément fait rire et qui crée une connexion indirecte avec le spectateur, ce qui permet que, sans qu'elle l'exprime de façon chantée ou par la parole, on a juste sa pensée qui s'affiche. Et ces petits moyens de montage comme ça qui dynamisent le film et qui créent un rapprochement avec le personnage. Mais voilà, Millie de George Hill, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et si vous voulez le partager avec moi, vous pouvez le retrouver chez Elephant Film.
Mary, Queen of Scots. A name in history 3 centuries old. But fiction at its peak of excitement pales before the dramatic facts of her tempestuous reign.
I will be revenged! I will be revenged!
Je vais continuer toujours chez Elephant Film avec un film qui s'appelle Mary Stuart, Reine d'Écosse, un film de Charles Jarrett. C'est aussi, on est encore toujours dans les premiers films, là, hein, c'est le troisième film de Charles Jarrett. Avant ces super productions Disney comme Le Dernier Vol de l'Arche de Noé ou Condorman, voilà, qui était une super production de notre enfance, à Thomas et moi, en tout cas, pas à Damien qui n'était pas né, mais à Thomas et moi, bon, ça a pris un méchant coup de vieux quand même, Condorman, hein, faut le dire. C'est un film avec une super musique de John Barry, pléonasme, va me dire Thomas, qui met en scène Vanessa Redgrave, qui fait donc Mary Stuart, et son ennemi juré, Elizabeth, qui est jouée par Glenda Jackson. Mais au casting, il y a aussi Patrick McGowan, qui n'est donc pas un numéro. Il y a Timothy Dalton, qui est tout jeune. Il y a Nigel Davenport. Enfin, il y a vraiment ce que compte de mieux le cinéma britannique de l'époque. On est à l'époque, Charles Jarrett, il sort d'un film qui a cartonné, hein, qui a été vraiment porté au nu par l'Académie des Oscars. Ce film s'appelle Anne of the Thousand Days, Anne des Mille Jours. Et c'était un film un peu dans le même style. On retrouvait Henri VIII, qui était joué par Richard Burton, qui n'arrivait pas à avoir d'héritier mâle. On est déjà sur la même thématique House of the Dragon, n'est-ce pas Damien, qui n'arrivait pas à avoir d'héritier mâle auprès de la reine Catherine, qui est jouée par Irène Papas, et qui demandait donc au cardinal Wolsey de plaider auprès du pape l'annulation de son mariage afin d'épouser une toute jeune et fringante Geneviève Bujold. Et ce film en costume moyenâgeux avait eu un énorme succès critique et commercial. Il avait été nommé 9 fois aux Oscars. Il n'en avait gagné qu'un seul au final pour les costumes, mais c'était mérité. Et puis 4 Golden Globes. Et il a repris, en fait, le producteur Al B. Wallis a repris la même équipe, sauf les acteurs, mais a repris la même équipe à la production, à la musique, John Barry. Il a repris toute l'équipe pour faire toujours un film en costume, donc cette histoire de Mary Stuart, reine d'Écosse, reine catholique, qui est donc opposée à sa cousine protestante, Elisabeth, d'Angleterre, première d'Angleterre. Et c'est leur lutte sans merci, qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Et le film vaut et pour beaucoup réussi, hein, il vaut énormément pour évidemment l'affrontement Glenda Jackson et Vanessa Redgrave. Et évidemment, Vanessa Redgrave, qui va être nommée pour plein de récompenses suite à ce rôle. Vanessa Redgrave, immense actrice, hein, et qui là écrase de tout son talent ce film, qui par ailleurs est un film fort agréable, assez soigné, assez trépidant. On est vraiment dans les histoires de cours, quoi, de conspiration, de complot, d'alliance, voilà, on est complètement là-dessus. Et on passe un très bon moment. Par moment, le film est même étonnamment violent. Il y a des scènes de violence assez surprenantes. Donc, c'est un film, plus un film d'action, j'ai envie de dire, qu'une reconstitution historique vraiment hyper fidèle. Mais on passe un très, très bon moment. C'est un très bon divertissement. Et donc, on vous recommande vivement ce Mary Stuart, reine d'Écosse, où il y a en plus quelques bonus, comme ça, comme une rencontre avec le critique Justin Quaidy, hein, qui parle pas mal de Charles Zerot, qui est quand même un réalisateur un peu oublié. Et il revient sur sa carrière, et puis sur quelques productions, Albie Wallis aussi. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le film est présenté dans une version HD qui est largement supérieure à la précédente édition en DVD. Donc, vous l'aurez compris, Mary Stuart, reine d'Écosse, de Charles Jarrod, avec Vanessa Redgrave et Glenda Jackson, qu'on vous recommande, hein, pour le voir dans les meilleures conditions possibles. Procurez-vous cette édition Made in Elephant Film. On va changer d'éditeur, on va aller chez Carlotta Film pour parler d'un film signé Hector Babenco, le réalisateur de Pixote, la loi du plus faible, hein, sorti en 80, un film qui a quand même traumatisé un grand nombre de cinéphiles lors de sa sortie. Hector Babenco, donc, qui signe Ironweed, un film quand même beaucoup moins prime-sautier que ne l'était Mary Stuart, reine d'Écosse, dont on vient de parler.
C'est sûr qu'Hector Babenco ne faisait pas vraiment des comédies. Hein. Ah, donc, Ironweed, c'est son premier film 100% états-unien. Hein, juste avant, il avait signé Le baiser de la femme araignée avec William Hurt, qui là était une coproduction entre les États-Unis et le Brésil. Donc, Ironweed raconte l'histoire de Francis Phelan, qui est incarné par Jack Nicholson, hein, très en forme toujours, hein, qui, durant l'hiver 38, est de retour dans sa ville natale, Albany, dans l'État de New York, après 22 ans d'absence. Il avait pris la route, quitté sa famille suite au décès accidentel de son fils, un fils qui avait quelques mois. Hein. On apprend dans le film comment il est mort. Hein. Et donc, en fait, c'est un clochard. Il est devenu clochard. Et il retourne dans sa ville natale. Et donc, dans sa ville natale, il y retourne deux amis, Rudy, qui est joué par Tom Waits, et puis Hélène, qui est jouée par Meryl Streep. Et là, en retournant dans sa ville, évidemment, il renoue avec sa vie. Enfin, il essaye de renouer plus ou moins avec sa vie d'avant. Et puis, il doit faire face à ces fantômes du passé, des fantômes qu'il voit. Hein. Il voit des gens s'incarner dans des costumes très blancs, très classe, dont il est responsable de la mort d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc c'est un film, c'est une sorte de testament. Francis Phelan fait une sorte de bilan de sa vie. Hein, il a la cinquantaine dans le film. Hein. Et c'est un film qui n'est pas misérabiliste, hein, comme on pourrait le croire. Hein. Il décrit, Hector Babenco, il décrit vraiment la vie des clochards, leur organisation, comment ils survivent. Mais il y a quelque chose, le film est à la fois mélancolique, mais il y a quelque chose aussi de, j'irai peut-être pas jusqu'à dire joyeux, mais il n'y a pas ce misérabilisme auquel on pourrait s'y attendre. Et ce petit côté un peu onirique, un peu fantastique quand on voit les fantômes, ces visions de Francis Phelan. Mais c'est un film qui est, y a une forme d'apaisement quand même quelque part dans la mise en scène de Babenco. Et on retrouve bien sûr cet amour qu'il a, hein, parce que Babenco, il aime les marginaux, il aime les laissés pour compte, les gens laissés un peu sur le bas-côté, quoi. Donc là, c'est les sans-abri. Dans Pixote, c'était les quartiers populaires. Dans Carandiru, c'était une grande prison au Brésil qui a été abattue, là, où il décrit un univers carcéral assez dur. Et, qui était déjà dans Le baiser de la femme araignée. Et donc on retrouve cet amour pour les marginaux et cette critique aussi d'une certaine bourgeoisie, parce qu'à un moment, il y a l'intervention d'une milice qui vient faire justice ou bastonner les clochards qui ne faisaient rien d'autre que dormir tranquillement dans un camp, quoi. Par rapport aux autres, à ces autres films cités, qui sont quand même plutôt violents, là on ne retrouve pas cette violence, tout du moins pas aussi durement que dans ces autres films aussi célèbres. Comme je disais, c'est quand même un film plutôt apaisé, plutôt mélancolique.
This road leads to Rainbowville. Going my way, up ahead is Bluebird Hill. Going my way, just pack a basket full of wishes, and off you start with Sunday morning in your heart.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial classique.
Round the bend you'll see a sign, Dreamer's Highway, happiness is down the line, going my way. The smiles you'll gather will look well on you. Oh, I hope you're going my way too.
Je vais changer d'éditeur, mais rester chez les marginaux. On était chez Carlotta Film avec Ironweed. Là, on va retourner chez Elephant Film avec La route semée d'étoiles. Alors, La route semée d'étoiles, c'est un film de 44. C'est un film de Léo McCarré. Léo McCarré, c'est un vrai maître de la comédie qui est réalisateur des meilleurs films des Marx Brothers, dont par exemple, en 1933, le grand classique La soupe au canard. Hein. Et en 44, donc, il signe La route semée d'étoiles, qui est son film le plus récompensé. Un immense succès public, un immense succès critique, qui obtient l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur pour Bing Crosby, du meilleur acteur dans un second rôle aussi pour Barry Fitzgerald, de la meilleure histoire originale, de la meilleure chanson originale. Ça en fait un paquet d'Oscars, quoi. Voilà. Le film rencontre donc un tel succès qui va conduire à la réalisation d'une suite, hein, qui va s'appeler Les Cloches de Sainte-Marie, toujours avec Bing Crosby. Et il y aura même une série télé en 62-63 avec Gene Kelly dans le rôle du père O'Malley qui s'appelle Going My Way. Mais qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte l'histoire du père O'Malley, donc vous l'avez compris, Bing Crosby, hein, monsieur, voilà, qui est un jeune prêtre qui est envoyé dans une paroisse des quartiers pauvres de New York et qui au départ va se frictionner pas mal avec tous les marginaux, tous les pauvres qui sont qui viennent dans cette institution et dans cette paroisse. Et puis, il va se heurter aussi au vieux pasteur, qui n'est pas sympathique, qui est revenu de tout, qui n'aime pas beaucoup et qui n'aide pas beaucoup d'ailleurs non plus ce petit jeune qui arrive et qui n'aime pas trop les jeunes délinquants et tout ça. Et grâce au baseball et grâce au chant religieux, amen, il va convertir ces jeunes brebis égarées. Et La route semée d'étoiles, donc, c'est retourné en 43, mais qui a été récompensé en 44, hein, va être un immense succès, certainement, parce que le public et la critique avaient envie de voir un film comme ça. C'était rassurant, un film qui faisait du bien, un feel-good movie, comme on dit. Le film a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que Il y a certaines musiques qui sont très bien, mais il y a de la musique tout le temps dans le film, puisque c'est un film plutôt musical, quoi, hein, voilà, sans être une comédie musicale, mais qui aborde plusieurs thématiques assez, comment dire, qui fonctionnent bien, quoi, dans le, tel l'affrontement entre le vieux et le jeune, tel, comment dire, il y a une histoire avec un rentier à un moment qui menace des mauvais payeurs. Enfin, il y a des petites historiettes au sein du film qui font que le film passe très bien et il évite, en fait, il l'évite pas complètement, mais il n'est pas si bon dieuzard que ne laissait croire le pitch au départ. Et on n'est quand même pas dans un film édifiant. Hein. C'est juste un film, en fait, sans cynisme. Un film humaniste où on croit en l'être humain, sans doute ce qui explique son grand succès. Ça demeurera pas pour moi mon Léo McCarey préféré, je dois bien vous l'avouer, mais ça se regarde avec beaucoup de plaisir et c'est vraiment, vraiment, comment dire, l'un des plus grands films de son époque. Je vous le recommande pour voir, ça a un intérêt historique de voir quel est certainement le plus grand succès du cinéma américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme ont un intérêt historique, les films là dont je vais vous parler, alors le précédent, La Route semée d'étoiles, c'était chez Elephant Film, là on va aller chez Artus Film, et on va aller en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui se produisait comme film pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien là, Artus Film en sort deux films qui appartiennent au genre Heimat. Mais quoi, Kesako, le Heimat? Qu'est-ce que c'est que ça, le Heimat? Alors, c'est quelque chose que l'on pourrait traduire par film du terroir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été florissant des années 40 jusqu'au début des années 70. Mais c'est déjà quelque chose qu'on a chez Murnau, par exemple, dans l'Aurore. C'est-à-dire qu'on le Heimat, c'est l'endroit où on se sent bien, où on est heureux, où on est loin du péché, loin de la vilainie. Et évidemment, très souvent, c'est la campagne. On est à la montagne, à la campagne, on est heureux. Et le produit Heimat le plus connu, c'est Heidi, qui est vraiment très connu et qui est effectivement l'un des fleurons du genre Heimat. Voilà. Alors, tout ça, ça nous est expliqué hein, dans le livre rédigé par Christian Lucas qui accompagne l'un des deux films. Le film, sans doute, évidemment, qui suscite le plus notre curiosité, c'est La ville dorée de Veit Harlan. Alors pourquoi ce film suscite notre curiosité? Eh bien tout simplement parce que c'est quand même le réalisateur de L'immonde juif Schuss, voilà, l'un des films antisémites les plus radicaux et violents produits à l'époque par le régime nazi. Et là, on découvre l'un de ces films qui est sorti en 1942, il s'appelle La ville dorée. La ville dorée, c'est quoi comme histoire? C'est l'histoire de Anna, une jolie jeune femme qui est destinée par son père au fermier Thomas. Mais elle est attirée par les lumières de Prague. Se souvenant que sa mère, venant de la ville, s'est suicidée de désespoir suite à la contrainte de devoir vivre à la campagne, elle décide de tenter sa chance donc dans la ville dorée, la ville du Stup, la ville de la luxure. Et elle va devenir la proie de son cousin Tony, un jeune dépravé, qui va lui faire subir déshonneur et souillure. Et c'est donc le retour au Heimat, le retour au cocon, à la ville, à la campagne dorée, non pas la ville dorée, hein, qui vient en opposition donc au titre, qui sera la solution pour cette jeune femme. La ville dorée est vraiment un film à voir pour voir ce qu'on pouvait produire de divertissement un peu abêtissant en fait, qui sont des bons films, bien mis en scène, bien écrits, mais quel est le message que tentent de faire passer ces films? Et c'est là que c'est embêtant parce qu'en plus, c'est pas spécialement des films de propagande, il faut bien le dire. C'est plutôt des films en fait qui évite en fait toute polémique. C'est plutôt des films qui évitent, et à l'image de La fille au vautour, l'autre film, qui est un film de Hans Steinhoff qui est sorti en 40, qui est également présent sorti chez Artus Film. On est en 1840 dans les Alpes du Tyrol et il y a une jeune fille hein, qui s'appelle Wally, qui est la fille unique d'un fermier et qui travaille beaucoup pour aider son père. et qui passe beaucoup de son temps libre dans les montagnes parce qu'elle espère y apercevoir Joseph, un chasseur qu'elle aime secrètement. Et puis, un jour, elle capture un vautour, ce qui provoque le mépris de Joseph et l'admiration de son père, qui veut, lui, la marier à un fermier voisin. Elle refuse d'aller chasser par son père et elle se réfugie dans les montagnes où elle va vivre avec son vautour. Et ça, par exemple, il faut savoir que c'est plutôt un classique en Allemagne, et qu'en fait, ça, c'est un remake d'un remake d'un remake. C'est-à-dire que, bien avant que le cinéma de propagande nazi se mette en route, cette histoire-là était déjà illustrée par différents cinéastes. Et ce qu'on voit avec La Ville dorée et La fille au vautour, c'est pour ça que ces éditions Artus Film, c'est vraiment important de les voir pour comprendre un peu comment, en fait, à l'époque, on produisait un cinéma, en fin de compte, qui est dénué de toute aspérité, mais qui est un cinéma, en fait, d'abêtissement des masses, plus politique qu'il n'y paraît, en vérité. Voilà. Donc c'est tout de même, voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Et je vous conseille ces deux films édités par Artus Film pour découvrir l'envers du décor, parce qu'on parle toujours de films de propagande avérée. Là, on va dire que ce sont des films qui semblent ne pas faire propagande. Du coup, ça en devient encore plus intéressant à voir et à étudier. Bien loin des idéologies nauséabondes, hein, je vais revenir quelques années en arrière. Avant même la Première Guerre mondiale, je vais aller en 1900. Hein, et je vais m'aventurer du côté d'un film de Philippe Borsos, un film édité par Carlotta Film qui s'appelle The Grey Fox et qui raconte l'histoire de Bill Miner, le voleur de diligence, qui après 33 ans d'emprisonnement, retrouve la liberté et retrouve un 20e siècle naissant. D'ailleurs, il regarde même à un moment The Great Train Robbery, il découvre le cinéma qui est pour lui un choc incroyable. Et il décide, même s'il est très vieux, il s'en fout, de se reconvertir et d'attaquer les trains parce qu'il pense que c'est un secteur d'avenir. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, à l'époque, tout cela est en pleine expansion. Et mon cher Damien, ma foi, ça va donner un western. Totalement atypique. Je remercierai jamais assez Carlotta Film pour m'avoir fait découvrir ce film, qui est vraiment une petite pépite, une petite merveille.
The Grey Fox est une très très belle découverte, un très beau film, notamment à travers sa photographie des grands espaces américains, mais en soi plutôt canadiens, conçu à travers les chevauchées des chevaux ou l'avancement des trains. C'est une découverte que j'ai beaucoup appréciée, qui est portée par un casting solide où Richard Farnsworth joue Bill Miner. Dans l'histoire, l'ouverture du film est intéressante. À deux moments, on a quasiment la même chose. C'est que le film s'ouvre avec le même style que les premiers films en noir et blanc et annonce l'histoire, du coup, celui de Bill Miner, bandit gentleman, dont on attribue l'invention de l'expression haut les mains. Et le film nous introduit immédiatement dans une idée de Far West, mais il va en prendre un peu le contre-pied, c'est-à-dire qu'on reste finalement dans ces gros espaces américains avec une légère saveur de road movie, notamment avec ce bandit en cavale, mais avec quelque chose de très posé et quasiment philosophique qui observe les paysages. Et ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est justement cet homme du passé qui est introduit dans le monde moderne, qui est en fait une histoire assez habituelle, des histoires de sortie de prison de quelqu'un au final qui s'est retrouvé enfermé pour des crimes, qui se retrouve dans un monde qui a changé, qui n'a pas vraiment de réinsertion, mais qui doit réussir à y trouver sa place. Et lui, il le trouve en reprenant ce qu'il sait faire, c'est-à-dire voler sud, justement, comme tu as dit, Jérôme, après avoir vu un film au cinéma alors qu'il était devenu ostriculteur, donc il était parti pour s'occuper des huîtres, si je ne m'abuse, en tout cas c'était lié au monde marin, et il repart de plus belle dans ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire voler avec des stratégies dont il a appris les rouages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il replonge finalement dans le vol par un côté, un petit côté, alors moi j'ai senti comme ça une recherche d'adrénaline et de renouer avec un plaisir qu'il en fait redécouvre avec le cinéma, c'est-à-dire finalement ce qui a été sa vie d'avant, les grandes aventures, les grandes aventures et l'action. Et au final, vers la fin du film, il veut en sortir par un autre amour, celui du cœur, si on peut le dire de manière beaucoup plus beau et romantique. Et il y a un autre truc qui est très cool avec le DVD, c'est les bonus que je trouve super intéressants, qui parlent notamment de la restauration du film, ce que j'aime beaucoup, où on apprend qu'ils ont changé le ratio à l'intérieur du film, parce que sur certains plans de base, on pouvait voir la personne prendre le son et en fait avoir la pellicule d'origine. Ça a permis de recadrer et de changer surtout tout ce qui va être travail autour de l'étalonnage, du contraste, pour apporter une couleur bleue superbe à la place d'un brun qui faisait pour le coup vraiment Far West. Et je trouve que ce bleu en fait rajoute à l'aura du film, ça lui apporte un petit côté pas vraiment onirique, mais quelque chose de beaucoup plus posé et de plus abyssal, dans le sens touché à des émotions profondes.
Nous allons terminer cette émission avec deux derniers films de très grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y a tout d'abord « Milliardaire pour un jour », le dernier film de Frank Capra, mon cher Damien. Alors, Frank Capra, Monsieur Smith au scénar, Sonic et vieille dentelle, « La vie est belle », ouais, pas besoin d'en rajouter. « Milliardaire pour un jour », qui est un film de 61, mais un remake d'un film de 1933, « Lady for a Day », « La grande dame ». La grande dame d'un jour, très exactement. Annie est une clocharde qui vend des pommes à Broadway. Elle a fait croire à sa fille Louise, élevée en Espagne, qu'elle appartenait à la haute société new-yorkaise. Mais Louise annonce son arrivée aux USA, accompagnée de son fiancé et de son père, des nobles espagnols. Dave, the dude, Conway, un gangster convaincu que les pommes d'Annie lui portent chance, et son amie Queenie Martin vont s'efforcer de faire passer Annie pour une femme du monde le temps du séjour de Louise. Et ça donne, mon cher Damien, une comédie assez singulière sur les faux-semblants de la part de Frank Capra.
C'est très particulier comme jeu sur les faux-semblants, parce que d'habitude, on pense au jeu du amour et du hasard, c'est-à-dire qu'on va faire semblant d'être telle personne et de telle personne va tomber amoureux de telle personne. Le truc habituel. Et ici, le point que ça choisit, c'est plutôt de mentir à sa fille, ce qui va porter durant beaucoup le film, mais pour ne pas la décevoir, pour être fier d'elle d'une certaine façon. Donc, comme tu l'as dit, c'est un remake de La Grande Dame du Jour, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Damon Runyon qui s'appelle Madame la Grippe. Et c'est un film qui a eu 3 nominations aux Oscars quand même, pour un meilleur second rôle, une meilleure musique et un décor. Dans le rôle d'Annie Apple, on trouve Bette Davis, déjà récompensée aux Oscars et multi-nommée. Dans le mafieux, on a Glenn Ford, qui a failli gagner un Golden Globe pour ce rôle. Et le truc le plus étrange, c'est que son assistant, c'est Peter Fox. Et c'est très bizarre de voir Peter Fox faire autre chose que Columbo, mais c'est très amusant dans le film. Et c'est un film qui va entrecroiser au final la vie des démunis et des malfrats dans une cause commune assez bizarre, parce que Glenn Ford, il veut juste... Enfin, The Dude veut juste monter au pouvoir dans la ville, ce que Roissy lui pense à travers les pommes d'Annie. Il y a une scène vraiment très cool où il achète une pomme à Annie et c'est pile au moment où il y a une fusillade. Et il y a des portes d'ascenseur en métal qui s'ouvrent en ce moment-là, qui permet de protéger des balles. Et Peter Fox fait le narrateur et il dit « Oui, à ce moment-là, mon patron pensait que c'était les pommes qui l'avaient protégé, mais moi, je remercie la plaque en métal d'avoir été ici. » Il joue un peu le personnage qui est censé garder les pieds sur terre. Et c'est vrai que tout ce qui va se passer derrière est un comique grand guignolant d'une certaine façon, où l'objectif, ça va être de prendre une personne démunie, de l'habiller, de la vêtir, de lui trouver un faux mari, de lui trouver des rendez-vous, d'organiser un bal, vraiment tout un faux semblant pour finalement ne pas briser les rêves de sa fille. Et on retrouve aussi dedans un côté les méchants sont pas si méchants, parce que Glenn Ford est censé être un mafieux, il négocie même pour agrandir son territoire, ou du moins le protéger, et alors qu'il était parti pour abandonner Annie, qui allait vraiment très très mal, au final sa copine le convainc de faut quand même aider la personne qui t'a permis d'accomplir tes rêves. Du coup, on a un conte moderne qui dit un truc bizarre du genre on peut mentir et bien s'en sortir quand on ne ment pas sur ses émotions si c'est pour aider les autres, j'ai l'impression. Mais la scène qui m'a le plus marqué dans le film, c'est une scène que je trouve extrêmement anodine, qui est une scène romantique entre la fille et le prince espagnol, où ils sont tous les deux assis sur le bord d'un balcon new-yorkais, et la fille commence à chanter, et il y a le serviteur et le faux du coup beau-père qui se mettent à écouter, et Annie qui se met à écouter. C'est vraiment une scène romantique que je trouve magnifique. J'ai les poils qui se sont hérissés devant ça, et il y a des scènes très belles dans le film et très drôles.
Le dernier film de Frank Capra, Milliardaire pour un jour, est sorti chez Rimini Éditions. Et là, on va parler du dernier film d'un autre très grand metteur en scène, Carol Reed, le metteur en scène du Train de nuit pour Munich, de Notre agent à la Havane, d'après Green, hein, et puis d'un grand classique d'après Graham Greene aussi, Le Troisième Homme, The Third Man, film qui a marqué l'histoire du cinéma. Carol Reed, donc Carol Reed, qui voit Elephant Film sortir son tout dernier film, un film de 72, Follow Me, film qui s'appelle donc Sentimentalement Vôtre dans sa version française, et qui est un film avec Mia Farrow, toute auréolée du succès de Rosemary's Baby. Mia Farrow, elle part en Angleterre, enfin tout ça est très bien expliqué dans les bonus par l'intarissable et l'érudit Samuel Blumenfeld, hein, qui nous apprend plein de choses et qui comment dire, a un propos très argumenté, très pertinent sur le film et qui est passionnant à écouter. Et qui nous donne bien envie de voir ce film avec Mia Farrow. Une Mia Farrow, à l'époque, donc je l'ai dit, elle est en plein succès. Elle est en partie en Angleterre, donc elle va entre autres tourner avec Fleischer, le terreur aveugle en Angleterre, on en a déjà parlé dans l'émission. Quant à Carol Reed, lui, il a eu un gros succès, il a eu 5 Oscars, il est parti travailler aux États-Unis, il a eu 5 Oscars pour Oliver, adapté d'Oliver Twist, et il est fatigué, il est épuisé. Et il décide de quitter Hollywood pour rentrer dans son pays et de travailler sur un scénario de Peter Schaffer, adapté d'une de ses propres pièces, The Public Eye. C'est quand même, excusez du peu, le gars qui a signé Ecus, qui sera adapté par Sidney Lumet, et Amadeus, qui sera adapté par Miloš Forman. Donc c'est un grand dramaturge. Et c'est quoi cette histoire? C'est une histoire toute simple. Mia Farrow, elle est mariée depuis plusieurs années avec Michael Jayston, enfin l'acteur Michael Jayston, qui est en fait Camp Charles, un conseiller fiscal, un peu ennuyeux, un peu. Voilà. Et la jeune femme s'ennuie lors des sorties mondaines avec Charles. Et lui, il soupçonne que sa femme a une double vie et il décide de la faire surveiller par un détective privé incarné par Shem Topol. Et oui, le laitier d'un violon sur le toit. On se demande que vient faire le réalisateur du Troisième Homme avec cette sorte de comédie sentimentale un peu étrange. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'il va y retrouver, beaucoup aussi grâce au talent de Mia Farrow, un certain côté très rythmé, très propre à la comédie américaine. Et il va aussi bénéficier, il faut dire, pour ce film, d'une photo signée Christopher Challis, qui d'ailleurs signera la photo d'une super comédie Top Secret, hein, qui viendra quelques années plus tard. Et en fait, ce qui marque dans ce film, c'est que c'est une sorte de comédie désenchantée. On sent que c'est le dernier film d'un réalisateur qui signe son dernier film. Et le film est très drôle, mais en même temps très attachant. Il a un côté très triste, très mélancolique, et qui en fait un film très à part, une sorte de petite merveille. Et c'est aussi, pour celui qui a été exilé aux États-Unis, une véritable déclaration d'amour à son pays et en particulier à la ville de Londres, qu'il filme sous toutes les coutures et qui est la ville de Londres, peut-être même le personnage principal de ce film, encore plus que les protagonistes qui s'y ébattent, dans un trio qui n'est pas un trio amoureux, hein, qui est juste un film sur l'ennui. L'ennui qui guette tout couple, en fait. C'est un film vraiment, vraiment particulier, vraiment singulier, donc on vous conseille vivement, qui s'appelle Sentimentalement Vôtre et qui est disponible chez Elephant Film. Thank you. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.